Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aimez-vous écouter des histoires? Jésus en a raconté beaucoup. L'une d'entre elles, d'ailleurs, va faire l'objet de notre sujet de discussion aujourd'hui.
Il s'agit de la parabole du vigneron. Dans un instant, j'accueillerai Robert qui va nous aider à mieux comprendre les leçons spirituelles que Jésus voulait transmettre à travers cette parabole. Mais d'abord, cédons la parole à Sandra pour la lecture de cette histoire.
Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il alloua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Ils lui répondirent « Il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. »
Merci Sandra. Vous venez d'écouter la lecture de la parabole du vigneron trouvée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 41. Et le moment est venu d'accueillir Robert. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous.
Robert, nous venons de lire une parabole choquante qui dépeint la méchanceté et les actes violents des hommes.
Souvent, dans les paraboles de Jésus, nous découvrons des éléments surprenants. En fait, Jésus veut choquer son audience afin qu'elle se remette en question et qu'elle ait soif de rechercher la vérité.
Merci Robert. Et avant d'aborder les détails de cette parabole, pouvez-vous nous préciser à quelle occasion Jésus l'a racontée?
Oui. Jésus se trouvait à Jérusalem. Il y était arrivé juste quelques jours avant la fête de la Pâque. Une foule dense grouillait déjà dans cette ville, car nombreux étaient ceux venus pour y célébrer cette fête à Jérusalem. Dans un tel contexte, Jésus enseignait chaque jour les foules dans le temple, et cette parabole fait partie d'un de ses discours. Deux ou trois jours seulement après, Jésus sera arrêté et emmené devant un tribunal, où il sera faussement accusé et condamné à mourir sur une croix.
Dans sa parabole, Jésus fait une allusion à cet enchaînement d'événements, car l'un de ses personnages principaux n'est-il pas le fils d'un riche propriétaire, mis à mort injustement?
Vous avez raison, Yann. Jésus évoque en fait son destin, tout en résumant brièvement toute l'histoire du peuple d'Israël.
Expliquez-nous en quoi cette parabole rappelle l'histoire du peuple d'Israël.
Le propriétaire du vignoble représente Dieu. Ce fermier prépara un champ, y planta une vigne et y fit construire les bâtiments nécessaires pour assurer l'entretien des terres et la protection des récoltes. Puis, il embaucha des vignerons. Ses employés devaient travailler pour faire fructifier la vigne. Dans le contrat établi entre ce fermier et les vignerons, ces derniers devaient lui remettre une partie de la récolte.
Ce qui semble tout à fait normal vu le contexte.
C'est exact, Yann. Le propriétaire était un homme juste. Alors, il n'a voulu qu'aucune injustice n'ait lieu.
Mais quels sont les parallèles avec l'histoire d'Israël?
Dieu avait choisi Israël pour être son peuple. Il le libéra de l'oppression et de l'esclavage en Égypte. Il le conduit ensuite jusque dans le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Car Dieu avait conclu une alliance avec ce peuple.
Qu'est-ce qu'une alliance? Pouvez-vous nous le rappeler?
Une alliance est un accord ou un contrat liant deux parties qui définit les responsabilités et les privilèges accordés à chacun. Dieu, pour sa part, avait promis d'assurer la sécurité et la prospérité en Israël. Il s'était également engagé à être leur Dieu, à déployer pour eux toute sa bonté et à les aimer d'un amour fidèle.
Ces promesses sont merveilleuses. Mais dans cette alliance, quelle était la responsabilité du peuple de Dieu en contrepartie?
Tout comme les vignerons de la parabole devaient donner une partie de la récolte à leurs propriétaires, le peuple de Dieu devait respecter le Seigneur, l'honorer et lui rendre un culte agréable. La loi que Dieu avait confiée à son serviteur Moïse explique ce que le Seigneur attend de son peuple. Ce dernier doit rendre un culte à Dieu et respecter les directives données par la loi en mettant en place une société juste où la vie et les biens de chacun sont respectés.
Toutefois, dans la parabole, les vignerons n'ont pas voulu donner au propriétaire la part de la récolte qui lui revenait.
Non! Et malheureusement, cet état reflète l'attitude du peuple de Dieu tout au long de son histoire. Ce peuple voulait jouir des bienfaits de la terre promise sans toutefois respecter la loi ni rendre un culte à Dieu.
Robert, la prochaine fois, nous parlerons des serviteurs envoyés par le propriétaire et qui sont tués par les vignerons. Toutefois, aujourd'hui, je voudrais vous poser une dernière question. Jusqu'alors, nous avons surtout parlé de cette parabole en le comparant avec l'histoire du peuple d'Israël. Et je suis d'accord pour dire que c'est ainsi que nous devons l'interpréter. Mais alors, dans ce cas, comment pouvons-nous nous sentir aujourd'hui concernés par cette histoire de Jésus? Quelle est sa pertinence pour nous?
Vous avez raison, Yann. Je dois ajouter que ce vignoble préparé par le propriétaire évoque aussi pour moi la création. À l'origine, Dieu créa toutes choses bonnes. Tous, nous pouvons jouir de la création. Elle offre tant à découvrir, tant de beauté dont on peut s'émerveiller, tant d'aliments délicieux à goûter, tant de plaisir à savourer. Et tout comme les vignerons auxquels le propriétaire avait confié son vignoble devaient le faire fructifier pour obtenir une bonne récolte, nous aussi, nous devons travailler pour bien profiter de la création que Dieu nous offre. Toutefois, plongés dans la routine du travail, avons-nous une pensée pour Dieu? En jouissant des bonnes choses de la création, sommes-nous reconnaissants envers son Créateur? Beaucoup sont comme les vignerons qui figurent dans la parabole. Ils profitent de la vie, mais refusent d'honorer celui qui a rendu toutes choses possibles. Ils refusent de reconnaître celui qui est souverain, celui auprès duquel tout homme doit rendre compte de ses actes. Jouir de tout ce que Dieu nous donne, tout en voulant affirmer son indépendance et son autonomie, c'est mépriser sa bonté. Combien il peut être facile, en interprétant cette parabole, de montrer le peuple d'Israël du doigt. Mais sommes-nous vraiment différents? Examinons-nous chacun devant lui. Dieu est notre Créateur. En tant que tel, il est digne de recevoir notre adoration et notre reconnaissance. Nous pouvons lui faire confiance et nous soumettre à sa volonté, car il est profondément bon et généreux.
Nous remercions Robert pour sa participation aujourd'hui. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique. Nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire au chapitre 2 les versets 9 à 12. Ensuite, elle cédera la parole à Claude, qui nous fera part de ses réflexions.
Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait.
Imaginez-vous dans la situation suivante. Vous faites partie d'une église où depuis un certain temps, certaines personnes prétendent avoir découvert de nouvelles vérités qui leur permettent d'être des chrétiens supérieurs. Mais voilà que ces soi-disant vérités sont en contradiction avec ce que vous pouvez lire dans la Bible. Elles sont aussi en contradiction avec ce que les pasteurs de confiance prêchent. Puis, un jour, elles vous annoncent qu'elles vont partir pour créer leur propre église. Une église qui, selon elles, détiendra la vérité. Comment vous sentiriez-vous? Troublé, confus ou blessé? L'apôtre Jean, l'auteur des paroles que nous venons d'écouter, écrivit à des chrétiens qui avaient subi ce même scénario. Malheureusement, des situations semblables peuvent arriver même de nos jours. Comment alors reconnaître les faux enseignants qui sèment le trouble? Et comment réagir nous-mêmes? Dans les versets lus précédemment, Jean souligne l'importance de l'amour. Cette qualité doit caractériser tout vrai chrétien. Et il le répète ici. Si une personne montre par son comportement qu'elle déteste son frère, c'est-à-dire tout autre chrétien, cette personne alors ne marche pas dans la lumière, mais plutôt dans les ténèbres. Autrement dit, toute personne qui prétend connaître la vérité ou qui l'enseigne, si elle ne se conduit pas avec amour, c'est qu'elle n'a pas compris la vérité dont elle parle. Elle marche dans l'ignorance. La parole de Dieu n'a pas vraiment éclairé son intelligence. Elle n'a pas pénétré son cœur. Elle n'a pas produit une véritable transformation dans sa vie. L'orgueil et l'arrogance peuvent aveugler certains, au point qu'ils en arrivent à ne plus voir le mal qu'ils commettent, ni le désordre qu'ils sèment. Ces personnes sont-elles alors dignes du nom de chrétiens? Les propos de Jean nous conduisent à une conclusion terrible. Si notre haine pour certains frères a étouffé en nous tout sentiment d'amour, nous devons alors nous remettre en question et nous interroger sur l'authenticité de notre foi. Mais qu'en est-il de ceux qui sont victimes de la conduite de ces faux enseignants, qui divisent, qui blessent, qui sèment doute et confusion, ou qui sont victimes d'attitudes méchantes et égoïstes? Comment réagir? Nous devons veiller à ne pas laisser l'amertume, le ressentiment et la colère remplir notre cœur. L'amour en nous ne doit pas être étouffé. Il doit être déversé pour tous. Il n'est pas facile d'aimer ceux qui nous détestent. Mais si nous nous tournons vers Jésus, la lumière, alors les ténèbres ne remporteront pas la victoire dans nos vies. Si nous nous confions en Jésus, si nous puisons en lui nos forces, alors la lumière de son amour brillera en nous et tout autour de nous.
Merci pour ce rappel important. L'amour de Jésus doit vraiment briller dans notre vie. Il doit se voir. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.